Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Chers amis auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour parler cette fois-ci de l'Institut de chimie. Vous vous rappelez que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de la faculté de pharmacie qui se trouvait dans les bâtiments actuels de la Panacée. Et je vous avais dit que la faculté de pharmacie, petit à petit, avait grignoté jusqu'à occuper carrément le pâté de maison qui était encerclé par la rue École de pharmacie, la rue du Calvaire, la rue de la Verrerie et la rue du Berger. En fait, il y a un endroit qui va être utilisé pour construire des bâtiments pour un institut de chimie qui sera commun à la faculté de pharmacie et à la faculté des sciences. Et il se situe à l'angle de la rue du Berger et de la rue de la Verrerie. Alors, pour comprendre l'origine de cet institut de chimie, il faut remonter un petit peu en arrière. Vous vous rappelez que l'université impériale, au début du 19e siècle, a été créée en 1808. Elle a créé une faculté de médecine, une faculté des sciences, une faculté des lettres, et ainsi qu'une école spéciale de pharmacie. Mais curieusement, on avait oublié la faculté de droit. Et il se trouve que le droit avait été enseigné, c'était un enseignement très ancien, dans notre ville de Montpellier, puisqu'il remontait au Moyen-Âge. Or, il se trouve que, après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, est née la Troisième République. Et la Troisième République a essayé d'analyser les causes de cette défaite. Et on a estimé en partie que un des éléments de la défaite était dû au fait que notre enseignement scientifique n'était pas d'un bon niveau. Et alors du coup, on a voulu prendre exemple sur les Allemands, et notamment sur ce qui se passait à Berlin. Et la Troisième République va décider la chose suivante. Ils se sont dit, nous allons créer en France à peu près 6 pôles, 6 villes qui auront le statut d'université. Pour avoir ce statut, il faudra que dans ces villes, il y ait à la fois une faculté des lettres, une faculté des sciences, une faculté de médecine, une faculté de pharmacie. Et la dernière, je ne me rappelle plus, je ne sais plus ce que j'ai dit, et une faculté de droit. Voilà, c'était décidément le droit, je l'oubliais. Et ces 5 facultés doivent être en un même lieu. Voilà, c'est le critère que s'était donné la Troisième République pour avoir quelque chose comme 6 pôles d'excellence en France, sur le modèle de Berlin, puisqu'on s'était rendu compte que à Berlin dans l'Allemagne, les universités étaient toutes regroupées, ce qui facilitait les échanges entre les différentes disciplines. C'était l'objectif. Et puis, il y avait un monsieur aussi qui a été très important au niveau de l'enseignement supérieur, c'est Louis Liard. Louis Liard a été en quelque sorte le chef des enseignements supérieurs. Il a d'ailleurs façonné l'université française pour très très longtemps. Et Louis Liard se dit toujours dans la même optique de favoriser les échanges entre les différentes universités, entre les différentes facultés plutôt d'une même université. Eh bien, il s'est dit, on va créer des instituts. Alors, ces instituts, ce sont des établissements dans lesquels on va regrouper les gens d'une même discipline qui enseignent cette discipline dans différentes facultés. Par exemple, on peut prévoir un institut de botanique qui va regrouper les botanistes qui travaillent en médecine, en sciences et en pharmacie. Pour un institut de chimie, exactement la même chose. Donc c'est en 1889 que l'on va créer 7 instituts à Montpellier, un institut de botanique, un institut de chimie, un institut de physique, de maths, de zoologie, de géologie et de minéralogie. Alors je vous dis tout de suite que sur ces 7 instituts, il n'y en a que 2 qui seront pérennes, qui subsisteront, c'est l'Institut de botanique et l'Institut de chimie. Les autres instituts, en fait, ont eu une existence presque un peu anonyme, et c'était en fait un service de la faculté des sciences. Et on le comprend facilement. La géologie, on ne fait pas de géologie en médecine, ni en pharmacie, ni ailleurs. Donc, certains de ces instituts étaient forcément voués à l'échec, et c'est en 1922 qu'on va les supprimer. Donc, revenons à notre institut de chimie. Eh bien, on va d'abord avoir un premier problème, c'est que les médecins vont dire « Non, nous, on ne participe pas à cet institut de chimie ». Nous sommes en 1889. Il se trouve que les médecins ont anticipé l'avènement de la physique et de la chimie dans leur discipline et ils ont créé un institut de physique et chimie en 1884. Donc ils disent, nous, on a notre institut de physique et chimie, on ne va pas encore participer à un autre établissement. Et cet institut de physique et chimie, il a été construit, sa façade principale se trouve sur la rue Armand Gauthier, c'est-à-dire face au square de la Tour des Pins. Plus tard, il sera agrandi et il prendra le nom d'Institut de biologie. Mais pour l'instant, ce premier institut a été inauguré en 1884 et donc il n'y a que pharmaciens et scientifiques de la faculté des sciences qui vont participer au nouvel institut de chimie. Alors cet institut de chimie, comme je vous l'ai dit, il est situé à l'angle de la rue du Berger et de la rue de la Verrerie. L'entrée va se faire par la rue de la Verrerie. D'ailleurs, si vous passez dans la rue de la Verrerie, vous verrez encore la porte qui sert actuellement comme porte d'entrée pour les services administratifs de la Panacée. Et vous verrez au-dessus, il y a écrit effectivement Institut de chimie. Donc cette porte ancienne qui date de 1889 existe encore, bien que l'Institut de chimie, comme nous le verrons tout à l'heure, ait déménagé plusieurs fois par la suite. Alors cet institut de chimie, la première année on va nommer comme professeur Monsieur Astre, un pharmacien, et puis la deuxième année c'est un autre chimiste qui va arriver et qui s'appelle Robert de Forcran. Alors là, une des particularités donc de cet institut de chimie par rapport aux autres instituts de chimie qui ont été créés en France, eh bien c'est que cet institut de chimie est un institut d'université, c'est-à-dire qu'il dépend de deux facultés, la faculté de sciences et la faculté de pharmacie. Alors que les autres, il y a une dizaine d'instituts de chimie qui sont créés en France, et ces instituts de chimie sont des instituts de faculté, ils ne dépendent que d'une seule faculté. Donc c'est un premier changement. Ensuite, nous allons constater que cet institut de chimie va pas très bien fonctionner parce que, en fait, les chercheurs de la faculté des sciences vont rester très attachés à leur université et à leur faculté d'origine, alors que les pharmaciens vont rester attachés à leur pharmacie, à leur faculté de pharmacie. D'ailleurs, ils sont dans le même pâté de maison, hein, donc ça s'explique assez facilement. Et c'est la création de cet institut de chimie qui explique que en 1894, on va inaugurer 4 bustes de chimistes dans la cour de la faculté de pharmacie, qui n'est pas encore une faculté. Elle s'appelle à l'époque École spéciale de pharmacie. Elle ne deviendra vraiment faculté qu'en 1920. Mais enfin, j'anticipe un peu en l'appelant faculté de pharmacie. Vous ne m'en voudrez pas d'utiliser ce terme qui n'est pas tout à fait exact. Alors, dans la cour de ce qui est aujourd'hui la Panacée, mais qui était à l'époque la cour de la faculté de pharmacie. Nous avons 3 bustes, un buste de Charles Guérard, un buste de Ballard, un buste de Chancel et un buste de... Comment s'appelle-t-il ? Le fils du préparateur de Chaptal, qui est d'ailleurs enterré au cimetière protestant. Mais enfin, je retrouverai son nom, c'est pas très grave. Et ces 4 bustes vont rester là jusqu'en 2009, et en 2009, ils vont être enlevés quand on va faire la Panacée, être stockés dans des locaux de la mairie, et ils ont été actuellement restitués à la nouvelle école de chimie. Je les ai vus récemment, il manque plus qu'à savoir où on va les mettre dans la nouvelle école de chimie qui vient d'être construite et qui a commencé à fonctionner, bien qu'elle n'ait pas encore été inaugurée. Vous voyez que c'est quelque chose de très récent, sur l'avenue Émile Jeanbrot, à l'emplacement où se trouvait autrefois le centre de transfusion sanguine. Alors, notre directeur, le directeur qui a marqué le plus cet institut de chimie dans cette première période et à sa création, c'est donc Robert de Forcran. Robert de Forcran qui a fait sa thèse au Collège de France et qui est un élève de Berthelot. Et qui vient à Montpellier comme professeur et qu'on va en nommer dès le début, dès 1890, directeur de l'Institut de chimie. Et Robert de Forcran n'est pas un chimiste spécialisé en chimie organique, comme la plupart de ses prédécesseurs, comme l'était Gerhardt, par exemple, ou Chancel, ou même Ballard. Et c'est un thermochimiste qui s'occupe des chaleurs de réaction, mais il est très connu, il est aussi bien connu d'ailleurs par son enseignement oral que par les livres qu'il a écrits. Et en 1907, Robert de Forcran va créer à Montpellier un diplôme d'ingénieur chimiste. Alors ça peut paraître un peu bizarre de créer un diplôme d'ingénieur chimiste dans une ville qui n'a plus d'industrie chimique depuis longtemps, car l'usine de produits chimiques créée par Chaptal en 1782... a fermé ses portes en 1863. Et nous sommes là en 1890. Donc c'est un peu bizarre, mais ça se justifie, si vous voulez, pour faire vivre un petit peu l'université. On peut former des ingénieurs chimistes. Et ce qu'a proposé Robert de Forcran, c'est en fait de prendre des licenciés qui sont à Bac plus 2 et en un an, de leur faire faire des travaux qui peuvent les élever au niveau du titre d'ingénieur. Et là aussi, l'Institut de chimie de Montpellier se distingue des autres instituts, puisque les autres instituts vont prendre des bacheliers qu'ils vont former en 3 ans. Alors qu'à Montpellier, on prend des licenciés qui ont fait déjà 2 ans d'études de chimie et qu'on va amener au niveau ingénieur avec une troisième année. Voilà. Alors, pour la petite histoire, la première promotion, donc nous sommes en 1907, les promotions vont se succéder. Au début, il n'y aura pas grand monde, il y aura 4, 5, 6 étudiants qui l'obtiendront le diplôme. Et en 1911, pour la première fois, il y a une jeune fille qui obtient le diplôme d'ingénieur chimiste à Montpellier. Elle s'appelle Rebecca Landau, elle est russe. Et c'est la première femme qui obtient le diplôme d'ingénieur chimiste en France. Donc vous voyez que l'ancienneté à Montpellier est donc très, très réelle. Très réelle. Alors cet institut de chimie va fonctionner ainsi jusqu'en 1922. Et en 1922, le recteur va prendre une décision importante. Il va d'abord supprimer tous les instituts qui n'avaient pas prouvé leur utilité. Et il ne va garder que 2 instituts, l'Institut de botanique et l'Institut de chimie, qu'il va transformer en institut non plus d'université, mais en institut de faculté. Autrement dit, l'Institut de chimie va être rattaché seulement à la faculté des sciences. Comme il occupait des locaux dans le cadre de la faculté de pharmacie, il va bien falloir qu'il déménage. Donc le problème, c'est trouver un autre lieu pour l'Institut de chimie. Trouver un autre lieu, sachant que la faculté des sciences qui, en 1922, avait émigré, comme nous le verrons lors de notre prochaine émission, avait émigré dans le palais universitaire, c'est-à-dire l'actuel rectorat, c'était plein, il n'y avait pas de place, donc il fallait trouver de la place ailleurs. Et la place, on va la trouver dans l'ancien évêché. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu comment les choses se sont passées. Vous savez que depuis 1658, les évêques de Montpellier logeaient dans ce qu'on appelait le palais épiscopal, qui était l'ancienne abbaye bénédictine et collège bénédictin qui se trouvait à côté de la cathédrale. Et il se trouve que la plupart de ces évêques ont logé là, mais à la Révolution, on a décidé qu'on nationalisait cet évêché devenait un bien national. Et on y a même remis la faculté de médecine, qui est actuellement encore dans ces lieux. Donc il a fallu trouver, quand Napoléon a créé l'église concordataire, il a fallu trouver un autre lieu pour loger l'évêque, puisque l'évêque concordataire, il devait être logé par l'État, puisque payé par l'État, comme l'avait souhaité, comme c'était écrit dans le concordat qui a été passé entre Napoléon Ier et le pape Pie VII. Et c'est pour ça qu'en 1804, le préfet a racheté un hôtel qui se trouvait en bas de la rue actuelle, rue Cardinal de Cabrières, elle s'appelait la rue des Carmes à l'époque, juste en face du square de la Tour des Pins. Et ce lieu était composé de villas, d'une écurie, d'un jardin, en fait c'était tout à fait correct. On va y faire des travaux parce que Napoléon souhaitait que les évêques soient dans des hôtels particuliers, soient logés dans des hôtels particuliers. On va donc y loger l'évêque jusqu'à ce que, donc tout le 19e siècle, jusqu'à ce qu'il y ait la séparation des églises et de l'État en 1905. À ce moment-là, cet hôtel appartenant à l'État, l'évêque ne pouvait plus y résider. Et il se trouve que l'évêque, à ce moment-là, c'était le futur cardinal de Cabrières. Il sera fait cardinal en 1911. Là, on est en 1905. Donc, il va franchir la rue de derrière, qui est la rue Lallemand, ancienne rue Saint-Charles, pour s'installer précisément dans le couvent des sœurs garde-malades de Saint-Charles, qui sera le siège de l'évêché jusqu'à ce que l'évêché construise la Villa Maglone, avenue Saint-Lazare. Donc, cet ancien évêché, à partir de 1905, est libre. Alors, on va y loger quelques services de l'université, et notamment, on va y reloger l'Institut de Chimie. L'Institut de Chimie va donc arriver et ici, dans les anciens locaux de l'évêché, c'est une solution provisoire qui va durer de 1922 à 1934-35. Et en même temps que M. de Fort-Cran prend sa retraite en 1922, est arrivé déjà depuis 1908 à Montpellier un nouveau professeur qui s'appelle Marcel Godeschaux. Et Marcel Godeschaux va être doyen de la faculté des sciences et directeur de l'Institut de chimie. Il va donner un petit coup de fouet à cet Institut de chimie. Et il va créer... dans le cadre de ces locaux de l'évêché, un institut des carburants. Alors ça, c'est une initiative régionale. Des députés de l'Hérault ont tiré la conclusion que, notamment à cause de la bataille de la Marne, le transport automobile était quelque chose qui prenait de l'importance dans les guerres et que par conséquent, il serait certainement très utile de trouver des substituants au pétrole et à l'essence pour les automobiles. Donc on a fait on a cherché à monter un institut des carburants qui va durer pas très longtemps en fait. Et surtout Godeschaux, qui est un grand chimiste, va être à l'origine de la création d'un nouveau bâtiment, qui va se trouver 8 rue de l'École normale. Alors ce bâtiment va être construit entre 1934 et 1935, à un moment donné, vous ferez remarquer, où on va détruire les locaux de l'évêché à la même période pour construire la nouvelle faculté des lettres qui sera inaugurée en 1939. Vous voyez, dans cette période 1930, il y a beaucoup de changements au point de vue universitaire à Montpellier. L'évêché est détruit pour construire la nouvelle faculté des lettres. Ce sont les bâtiments actuels, mais la faculté des lettres ayant immigré, ils sont occupés aujourd'hui par la faculté de droit, donc qui se trouve rue Cardinal Cabrières, en face du square de la Tour des Pins. Pendant ce temps, on construit rue de l'École normale, par l'architecte Marcel Bernard, les bâtiments de l'école de chimie, où l'école de chimie va rester de là jusqu'à ces dernières années, hein, jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, il faut dire, voilà, puisque maintenant on a construit une nouvelle école de chimie dans le cadre d'un rassemblement de tous les chimistes universitaires de Montpellier pour constituer ce qu'on appelle le pôle Ballard, le pôle chimie Ballard. Alors dans ce bâtiment, qui est un bâtiment en béton armé, construit par l'architecte Marcel Bernard, c'est assez amusant de constater qu'il a voulu qu'il y ait un petit peu de décoration. Et dans les escaliers, dans deux cages d'escalier, il a réservé une place à peu près 2,30 m sur 1,85 m pour faire des fresques. Et il a proposé à deux jeunes professeurs de l'École des Beaux-Arts de Montpellier, Camille Descossi et Georges Dezeuse, de faire une fresque à l'ancienne, une fresque telle qu'on les faisait autrefois. Vous savez que le mot fresque, ça veut dire frais. Frais, c'est-à-dire que les vraies fresques du Moyen-Âge, on avait un maçon qui mettait le ciment qui n'était pas encore pris, et l'artiste, le peintre, devait mettre de la poudre, des colorants en poudre, non traités à l'eau, non traités sans colle, à la surface du ciment, de façon à ce qu'il pénètre à l'intérieur du ciment, et qu'une fois que le ciment serait sec, comme la coloration est prise dans la masse, la coloration ne peut plus partir, même avec un jet d'eau très puissant, la coloration reste. Alors nos deux artistes ont fait ces fresques, donc des vraies fresques. Les sujets traités par Camille Descossi, ça sera Raymond Lulle, ex-cathédra, on le voit, qui est en train, du haut de sa chaire, de professer. Et puis une autre fresque où on voit Raymond Lulle au milieu de ses disciples. Voilà, parce que Raymond Lulle est considéré comme un précurseur de la chimie. C'était à la fois, comme à l'époque, c'était un théologien, un savant, un homme qui avait écrit beaucoup de livres. Et figurez-vous qu'il avait décidé de convertir au christianisme les musulmans d'Afrique du Nord. Et finalement, je crois qu'il a fini lapidé à Bogie, en Algérie. Et puis, dans un escalier d'une autre aile, il y a deux fresques qui ont été faites par Georges Dezeuse. Alors Georges Dezeuse, lui, a été plus, j'allais dire terre à terre, pas tout à fait, mais sachant qu'il était dans une école de chimie, il a décidé de représenter d'une part les cristaux de sel, le sel qu'on récolte dans les marais salants au bord de la Méditerranée, et le sel qui non seulement sert à la cuisine, mais sert aussi comme matière première à l'industrie chimique. Donc il a fait une représentation dans laquelle on voit des cristaux de sel, on voit en haut une vague bleue qui rappelle un peu la Méditerranée. Et puis il a fait aussi une autre fresque où il a voulu rappeler l'alcool qui est constituant du vin, comme vous le savez. Et donc il a représenté deux satyres avec des pieds de chevaux, comme pour représenter un corps d'homme, et des pieds de chevaux, comme pour rappeler le tandem du cheval et du vigneron qui laboure sa vigne. Et il a mis les symboles de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, de façon à ce que quand on additionne tous ces symboles, on tombe sur la formule de l'alcool éthylique 3CH3CH2OH, c'est la formule de l'alcool éthylique bien trouvée dans une région viticole et dans une école de chimie. Voilà donc l'histoire de l'Institut de chimie tel qu'il s'est produit. Alors je vais quand même rajouter un petit mot, c'est que en 1939, Marcel Godeschaux vient à mourir, donc il n'a pas pu profiter vraiment de cette nouvelle installation de l'école de chimie. Il va être remplacé par Max Mousseron, qui était un très grand chimiste, qui va obtenir en 1957 que l'Institut de chimie devienne une école nationale supérieure d'ingénieurs, dont il sera le premier directeur. Mais Mousseron est un homme qui aussi, non seulement a été un enseignant et un chercheur extraordinaire, mais c'est lui qui a développé des relations avec le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et également avec l'industrie, puisqu'il a Il a créé une petite usine, une petite laboratoire de recherche industrielle au Marché-Gard. Et quand il a pris sa retraite en 1972, il a été le premier directeur du laboratoire nouvellement créé qui s'appelait Clamidi, qui par suite de différentes fusions deviendra le Sanofi actuel. Et j'ai le plaisir de vous rappeler que les liens entre Sanofi et Montpellier et l'école de chimie sont importants. Et d'ailleurs, le directeur actuel de Sanofi Montpellier est un ancien élève de l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour parler de la faculté des sciences quand elle se trouvait au bout de la place de la Canourgue. À bientôt.